le magazine des Nations Unies.
Tonnes, soit la quasi-totalité d'équipements de la CENI déployés sur l'ensemble du territoire national. La MONUSCO a mobilisé avions, cargo et hélicoptères pour réussir cette opération. Et puis près d'un demi-million de réfugiés enregistrés en RDC en 2016. Comment le SR a-t-il pu assurer la prise en charge et la protection? La réponse avec le porte-parole RDC de cette agence onusienne. Durant la même période, la RDC a connu une augmentation des violations de droits de l'homme. Le bureau conjoint des Nations Unies se dit préoccupé et lance la sonnette d'alarme avant la tenue des élections. Enfin, 100 millions de dollars de la Banque mondiale pour développer les infrastructures routières en RDC. La ville de Matadi met en branle une série de projets pour matérialiser l'initiative de cette institution financière internationale.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine des Nations Unies. Nous le disions tout à l'heure, la MONUSCO a déployé la quasi-totalité des équipements lui confiés par la CENI sur l'ensemble du territoire national, soit près de 1600 tonnes. Révélation faite mercredi dernier à Kinshasa par la coordinatrice du groupe de communication de l'ONU lors de la conférence de presse hebdomadaire. Florence Marchal ajoute que le projet de budget a prévu est soumis au Conseil sécurité pour l'appui au processus électoral est de 73 millions des dollars américains. Ces propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Soutien des Nations Unies à la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre des opérations de révision du fichier électoral. À ce jour, la MONUSCO a déployé l'intégralité des équipements mis à sa disposition par la CENI vers les hubs de Bukavu, Bunia, Gemena, Goma, Kalemi, Kamina, Kindu, Lubumbashi, Bujimai et Bandaka, ce qui représente près de 1600 tonnes de matériel électoral composé de kits bureautiques, de kits d'enregistrement, de cartes d'électeurs et de générateurs qui ont été transportés par des avions cargo de la MONUSCO sur plus de 100 vols. Par ailleurs, 16 hélicoptères ont déjà effectué plus de 150 rotations entre les hubs et les antennes afin de livrer le matériel dans des zones difficiles d'accès. Pour rappel, le soutien de l'Organisation des Nations Unies au processus électoral est décrit dans la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Il s'agit d'apporter une assistance technique et un soutien logistique aux opérations de révision du fichier électoral actuellement en cours.
Autre chose, l'UNESCO accompagne la ville-province de Kinshasa dans la mise en œuvre d'un projet de la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est en tout cas ce qui a justifié la présence du représentant de cette agence onusienne à l'atelier organisé mercredi dernier à Kinshasa. Abdourahman Diallo revient ici sur l'importance et les multiples aspects de ce projet. Il est au micro de Babel Mpongo Massimango.
L'UNESCO accompagne le gouvernement provincial dans la mise en œuvre d'un programme sur la lutte contre les violences basées sur le genre, la lutte contre l'impunité, l'autonomisation des femmes, des victimes surtout. Et c'est un projet en fait conjoint entre plusieurs agences et c'est financé par le Canada. Et donc la ville-province de Kinshasa est un des partenaires bénéficiaires de ce projet. C'est dans ce cadre-là que nous assistons à cette rencontre, la lutte contre les violences basées sur le genre. Dans le cadre de ce projet, il y a plusieurs composantes. Il y a la composante de la santé pour soigner, prendre en charge psychologiquement les victimes. Il y a un volet sur l'autonomisation, la réinsertion des victimes. Il y a un volet sur l'aspect judiciaire. Comment poursuivre les condamnations, s'assurer que les dossiers sont bien suivis à la justice. Et il y a le volet prévention.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous le disions également dans le sommaire, le nombre de réfugiés a sensiblement augmenté en 2016 en RDC, près d'un demi-million selon le ACR. Cet afflux pose des problèmes au pays d'accueil et au ACR. Alors comment cette agence onusienne a-t-elle fait face aux défis? Quels sont surtout les nouveaux défis qui l'attendent en 2017? Pour en parler, Jean-Pierre Elali Coco reçoit pour vous Andrea Kurtchoff, un porte-parole du ACR RDC. Suivez plutôt leur entretien.
Andrea Kurtchoff, bonjour.
Bonjour.
Oui, le nombre de réfugiés en RDC a sensiblement augmenté en 2016, selon un communiqué du HCR qui a été remis à notre rédaction. Comment expliquez-vous cette augmentation?
Il y a plusieurs pays voisins de la RDC d'où viennent ces réfugiés. Notamment, il y a un conflit dans la région qui est frontalière avec la RDC au Sud-Soudan, en Équatoria, ce qui explique la plus grande partie de cette augmentation. On voit aussi un afflux continuel du Burundi. Et puis, il y a eu des arrivées aussi de la République centrafricaine l'année dernière, mais beaucoup moins élevées et un certain nombre aussi de gens qui ont quitté les camps de réfugiés sont peut-être rendus vers eux, donc vers la République centrafricaine, ça commence à devenir plus stable.
Et selon la représentante régionale du HCR, Madame Anne Encontre, le nombre de réfugiés congolais en Afrique est évalué plutôt à 554 000 en 2016, donc c'est un peu plus que le pays ne reçoit ici. Hein. Qu'est-ce qui explique l'afflux de réfugiés congolais cette fois-ci dans les pays africains?
Effectivement, il y a beaucoup de réfugiés en RDC, il y a encore beaucoup plus de réfugiés de la RDC dans la région.
Dans la région, c'est-à-dire dans les pays limitrophes?
Dans les pays limitrophes, mais aussi dans l'autre pays comme l'Afrique du Sud, qui sont pas frontaliers avec la RDC. Donc, dans la région, disons, beaucoup de ces réfugiés sont déjà des réfugiés de longue date, mais on a aussi vu qu'il y avait des personnes qui sont arrivées l'année dernière en Ouganda ou même en Zambie. Les raisons pour ces mouvements, c'est les mêmes qui contribuent au déplacement interne en RDC.
Parlons maintenant justement de la prise en charge de réfugiés qui sont en République démocratique du Congo et de leur protection. Quelles ont été donc les actions menées par le HCR, notamment pour les nouveaux réfugiés sud-soudanais qui sont, vous l'avez dit, dans la partie nord du pays?
La protection des réfugiés et l'accueil des réfugiés est surtout la tâche des autorités. Des autorités congolaises, effectivement. Il y a une commission nationale pour les réfugiés. Le rôle du HCR est soutenir le pays dans sa rôle d'accueillir les réfugiés. On travaille étroitement ensemble. Par exemple, première étape après l'arrivée, c'est l'enregistrement des réfugiés au niveau individuel, ce qui permet après de mieux comprendre la situation, mais aussi mieux savoir qui est vulnérable, qui a besoin de protection et soutenir ces personnes. Il y a deux sites identifiés ouverts ensemble avec les autorités. Une est en Ituri, effectivement, en territoire d'Arou, à Biringi. L'autre est en Ouélé, territoire de Faradje, à Méry. Dans ces deux sites, il y a actuellement, on semble, plus que 13 000 réfugiés. Mais ce qui est préoccupant, il y a beaucoup de réfugiés sud-soudanais qui restent vers la frontière. Donc, on encourage les réfugiés de rejoindre ces deux sites pour le sud-soudanais, où aussi il y a une certaine assistance et une aide à l'autosuffisance.
Quittons le nord du pays pour l'est maintenant. Parlons du camp de Lusenda, c'est au sud Kivu. Le nombre de réfugiés burundais a quasiment doublé et certains ont craint l'infiltration de rebelles du FNL avec armes, bien entendu. Et qu'a fait les HCR pour séparer les bons grains des livrets?
Nous travaillons très étroitement avec les autorités qui sont en charge de cela. Il y a aussi la MONUSCO qui collabore et qui a une présence pas loin du camp, qui fait des patrouilles sur le lac Tanganyika, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de mesures. Et comme résultat, on peut dire que en général, là où il y a un soutien pour les réfugiés, où il y a un enregistrement des mesures pour protéger les réfugiés, il y a moins de risques qu'il y aurait des combattants. Donc les camps de Lusenda, on regarde ça de près, mais on doit dire que les informations sur les risques de présence rebelle et préviennent normalement de la zone où les réfugiés sont éparpillés.
Vous pouvez confirmer qu'il n'y a pas, par exemple, la présence des rebelles burundais dans les camps pour l'instant?
On n'est pas au courant d'une présence de rebelles burundais dans les camps. Comme je disais, il y a une bonne effectif de la police congolaise qui surveille ça aussi au jour par jour. jours, il y a la présence de plusieurs organisations, donc ça serait assez improbable.
Parlons maintenant des réfugiés rwandais en RDC. Ils sont plus de 42 000 pour l'instant. Cela crée quand même, monsieur Andreas, une confusion en période d'enrôlement électoral comme c'est le cas maintenant. On ne sait pas vraiment qui est congolais et qui ne l'est pas. Et qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour essayer d'aider l'enrôlement des électeurs pour que ça se passe normalement et qu'on n'ait pas à des sujets étrangers, réfugiés soit-il?
D'abord, le Haut Commissariat pour les réfugiés n'est pas en charge de déterminer qui est congolais ou qui n'est pas congolais. Mais, comme vous l'avez dit, il y a 42 000 réfugiés rwandais qui ont été enregistrés dans l'Est biométriquement, individuellement, dans l'Est surtout. Cela permet déjà aux personnes de montrer une carte de réfugié, c'est une mesure de protection, donc, et à l'État de savoir qui est réfugié rwandais. Il y a potentiellement un nombre beaucoup plus grand. Il y avait une estimation, un pré-enregistrement des autorités qui dit qu'il y a 245 000 réfugiés rwandais dans l'Est de la RDC. On essaie de soutenir la RDC pour trouver des solutions et il y a plus de 6 000 réfugiés rwandais qui sont rentrés volontairement.
Il faut dire que ces rapatriements sont très lents par rapport à ce que les ACR et puis même le gouvernement congolais par l'entremise de la Commission nationale pour les réfugiés. Mais c'est long, ces rapatriements. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accélérer les choses?
C'est effectivement très long si on regarde combien de réfugiés rwandais il y avait il y a une ou deux décennies. C'est un nombre plus tellement élevé. La complication aussi avec ces groupes de réfugiés aussi, que c'est des gens qui se sont mariés à des Congolais et ils sont éparpillés, c'est vraiment très très compliqué.
Pour terminer, Andreas, quels sont les défis qui attendent les ACR RDC en 2017? Et je voudrais parler précisément en termes des financements et bien sûr de l'action sur le terrain.
En 2016, on a eu un budget basé sur les besoins et on a eu environ un tiers de ces besoins financés.
29% de ce que vous attendiez des donateurs, c'est ça?
Oui, c'était 29% des besoins total.
C'est très peu.
C'est pas beaucoup, ça nous a contraint très souvent. Il y a des réfugiés qui n'ont pas reçu des non-vivres et aussi le programme alimentaire mondial a dû réduire son soutien aux réfugiés centrafricains. On a pu mener des actions, il y a beaucoup de réfugiés qui ont reçu du soutien de notre côté. Pour l'année 2017, le défi est avec une financement potentiellement limité de soutenir l'autosuffisance des réfugiés parce que ça coûte aussi de l'argent. Deuxièmement aussi de voir comment on peut trouver des solutions pour des réfugiés. Par exemple, les réfugiés centrafricains, est-ce qu'on peut avancer vers une première étape d'un rapatriement volontaire ensemble avec les deux États? Tout cela, on va voir cette année.
Bonne chance pour tout ce que vous allez faire cette année et Andreas Sikachov, Radio Capi, vous remercie.
Merci à vous.
Le gouvernement de la RDC et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, se sont réunis le 25 janvier 2016 à l'hôtel du gouvernement. C'était dans le cadre de la revue annuelle nationale du programme de coopération RDC-UNICEF 2013-2017. La rencontre avait pour objectif de faire l'état de lieu de la mise en œuvre du programme de coopération. Les participants ont pu dégager des pistes d'action pour l'année 2017 en vue d'accélérer l'atteinte des objectifs communs. Ils ont également levé les obstacles qui freinent la réalisation progressive des droits des enfants en RDC. Rendons-nous enfin au sud-ouest du pays, à Boma précisément, où 3000 ménages ont reçu de l'assistance à des organisations humanitaires, des autorités provinciales, mais également de certaines entreprises privées. Cette assistance était composée des vivres, produits pharmaceutiques et d'autres biens de première nécessité, ainsi que d'un accompagnement psychosocial.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce dimanche, c'est José María Ranas. Il est directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Bureau conjoint a publié mercredi dernier son rapport annuel 2016. Monsieur Ranas donne ici les tendances de ce rapport ainsi que l'évolution de l'espace démocratique dans cette interview qu'il a accordée à Jean-Pierre Elali Coco. Suivez.
José María Ranas, bonjour.
Bonjour, monsieur Lali, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Oui, merci d'être venu dans ces studios de Radio Capi. C'est pour évoquer la situation des droits de l'homme en RDC en 2016. Votre rapport annuel fait état d'une augmentation des violations des droits de l'homme. Alors, quelles sont les différentes tendances observées l'année passée?
Notre bureau a documenté au moins 5190 violations des droits de l'homme dans le territoire de l'RDC, qui représente une augmentation de 30% en comparaison à l'année antérieure. Les agents étatiques, ça veut dire la PNC, le FRDC et l'ANR, sont été responsables de la majorité des violations des droits humains, qui sont résultées aussi en au moins 480 victimes d'exécutions extrajudiciaires ou exécutions sommaires. Les groupes armés ont été responsables au moins de 1860 en violation des droits de l'homme dans les territoires affectés par les conflits. 1009 civils ont été assassinés dans les territoires au conflit, donc la grande majorité ont été assassinés par les groupes armés. Nous avons aussi enregistré au moins 348 victimes adultes de la violence sexuelle liée au conflit. Au moins, il y avait 92 de ces victimes qui sont été victimes de la violence sexuelle par les agents étatiques du confondu. Dans le cadre du espace démocratique, notre bureau a enregistré au moins 1102 violations des droits et libertés fondamentales en l'RDC, surtout dans les grandes villes du pays, qui représentent une augmentation au moins 4 fois en comparaison à l'année 2015. Dans la lutte contre l'impunité, notre bureau a enregistré 167 membres de la FRDC et 59 policiers qui ont été condamnés pour violation des droits de l'homme. Aussi, dans le cadre d'appui aux autorités de notre bureau, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a donné l'appui ou a organisé 220 activités de formation aux sensibilisations dans les territoires de l'RDC.
Dans votre rapport, on voit que les agents de la police nationale congolaise viennent au premier rang des auteurs de violations des droits de l'homme. Comment expliquer ce paradoxe? D'un côté, ils violent et de l'autre, ce sont eux qui doivent être responsables de la protection des civils.
Oui, c'est très préoccupant, mais je pense que c'est une relation directe avec la répression des droits civils et politiques et qu'ils sont des relations avec l'espace démocratique. La police nationale congolaise, mais aussi les éléments de la force armée et l'ANR, ont été les responsables de la grande majorité, presque la unanimité, des violations des droits humains dans le cadre de la répression de l'espace démocratique.
Monsieur Aranaz, vous publiez ce rapport au moment où les mesures d'application de la décrispation politique de l'accord du 31 décembre battent de l'aile. Alors, quelle est l'analyse que vous faites par rapport à ces mesures, parce qu'on sait que les prisonniers politiques sont encore en prison pour la plupart. Certains médias n'ont pas encore été réouverts, notamment à Lubumbashi.
Oui, tout à fait. Les mesures de décrispation et l'ouverture de l'espace démocratique, nous pensons que c'est la clé, l'élément fondamental pour juger le succès de l'accord politique. Et il y a des travaux qui étaient faits pour la libération des prisonniers politiques, mais jusqu'à un moment, nous avons documenté au moins 168 prisonniers politiques qui restent encore en prison, prisonniers politiques et prisonniers d'opinion. Donc il y a encore 10 membres de la société civile emprisonnés. Par rapport des médias, il y a beaucoup encore de travail à faire pour restaurer l'espace de liberté d'expression qui avait ça fait quelques mois. Et il y a encore une prohibition presque générale dans tous les pays, une interdiction des manifestations public de l'opposition, qu'il faut élever si nous voudrions parler d'un espace crédible pour les élections libres et apaisées. Il y a du travail qui a été fait, il y a un accord, mais il y a 4 semaines qui sont déjà passées et il faut accélérer les pas concrets pour les mesures de discrimination.
Oui, que peut faire alors le bureau conjoint et qu'est-ce que vous espérez de l'application de ces mesures en l'an 2017?
Nous sommes ici pour accompagner les autorités et surtout la population de la RDC pour contribuer d'une manière positive à la création d'un espace démocratique et donc tous les droits de l'homme soient disponibles pour tous. Nous espérons de l'année 2017 et surtout de nouveau gouvernement une attitude ouverte et surtout positive et effective pour mettre en place des mesures concrètes et les pas pour libérer et créer les conditions pour les élections libres et apaisées. Ça veut dire et donner les licences pour un climat apaisé de liberté d'expression et élever l'interdiction générale des manifestations, arrêter toutes les arrestations illégales, mais traduire en justice les responsables des violations des droits de l'homme. Nous sommes en train de préparer un rapport public qui sera partagé, comme toujours, avec les autorités sur les violations des droits de l'homme graves qui ont été commises à la fin de l'année dans le cadre du 19-21 décembre. Et on espère une attitude ouverte et positive des autorités et de tous les acteurs politiques pour avoir une année électorale qui contribue à la consolidation de la démocratie à la RDC.
Alors, monsieur le directeur, un dernier mot pour l'année 2017. Un petit commentaire?
Oui, j'espère que les Léopards vont gagner la Coupe de l'Afrique.
José Maria Ranaz, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Une réunion de la revue annuelle de la Banque mondiale et des partenaires de la RDC, notamment les maires de certaines villes de la RDC, s'est achevée lundi dernier à Kinshasa. Elle a porté sur des projets pour l'amélioration des infrastructures routières financées par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains. Le maire de la ville de Matadi a pris part à ses assises. Suivez cet échange que Jean-Pierre Elali Coco a eu avec Guy Roger Nyampala sur l'intérêt de la ville de Matadi dans ses projets.
Guy Roger, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Elali.
Oui, vous êtes correspondant de Radio Capi à Matadi. Quel bénéfice la ville de Matadi tire dans ses projets de la Banque mondiale selon le maire de la ville?
Il faut d'abord préciser, Jean-Pierre Elali, que la Banque mondiale a financé plusieurs projets dans la ville de Matadi. Mais il s'agit ici du projet PDU, projet de développement urbain, un projet qui a deux objectifs majeurs, à savoir promouvoir les infrastructures urbaines et également promouvoir la gouvernance locale. Alors parmi les projets déjà réalisés sur financement de la Banque mondiale à Matadi, il y a le bétonnage de la route Nsafaditumba dans la commune de Matadi, de 2100 mètres qui a permis justement de désenclaver un grand quartier, et c'est le quartier Soyo 4.
Et quels sont les projets en cours de réalisation dans la capitale du Congo central, Guy Roger?
Et parmi les projets en cours, en ce qui concerne bien entendu le volet infrastructure, il y a la route qui va du rond-point Bouima jusqu'à la route Tsasadi-Tumba qui sera également bétonnée. À cela, il faut ajouter la route Tsasadi-Tumba rond-point RTNC dans la commune de Matadi toujours. Le coup d'envoi des travaux seront lancés le 15 février prochain d'après le ministre provincial en charge des infrastructures Florian Massaki. À cela, il faut ajouter le site historique Belvédère de Matadi qui sera également réhabilité sur financement de la Banque mondiale selon le maire de la ville. Alors par rapport à la gouvernance locale, il y a selon la même source le renforcement des capacités de plusieurs cadres et agents non seulement de la mairie mais également de la société civile. Et la mairie a également reçu des ordinateurs et des équipements de projection toujours sur financement de la Banque mondiale.
Voilà, ce sont autant de projets. Hein. Et quels sont les défis sur le plan des infrastructures, notamment routières, et comment les maires de la ville comptent-ils s'y prendre pour rendre la ville de Matadi plus attrayante?
Oui, Jean-Marc Zaidio Lukombo, maire de Matadi, confirme qu'il s'agit bel et bien des défis à relever, hein, Jean-Pierre Elali.
Oui.
Il faut des opportunités, selon le maire de la ville, et ces opportunités sont l'œuvre du gouvernement central et provincial, et aussi, bien entendu, les partenaires. Alors, pour faire de la ville de Matadi une ville attrayante et assurer la pérennité de tout ce dont cette ville bénéficie, la population doit payer ses impôts et protéger aussi les ouvrages selon le maire de la ville. C'est une obligation pratiquement de la population selon lui. Et pour finir, Jean-Pierre Elali, le maire de la ville de Matadi a déclaré que sa mairie dispose aujourd'hui d'un plan de développement de Matadi appelé PEDEL en sigle, plan de développement local où sont repris tous les projets de développement de la ville de Matadi. Il peut être donc exploité par n'importe quel partenaire.
Oui, merci Guy Roger. Vous nous parliez de Matadi et excellente journée dominicale à Matadi même.
Merci pareillement à vous.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et la question d'aujourd'hui concerne plutôt la situation sécuritaire au Congo central.
Je suis Marthe Bossou-Andolé pour l'agence France Presse. On a appris depuis le début de la semaine des cas de violence dans le Bas-Congo, à Kifessé. Est-ce que la MONUSCO est au courant? On peut nous dire un peu plus? Et aussi, j'aimerais savoir si vous êtes inquiété par rapport à cette situation.
Il est évident que notre inquiétude est toujours là, parce que chaque fois qu'il y a des violences qui sont observées quelque part dans une partie de la République démocratique du Congo, ceci nous interpelle au même titre que les autorités congolaises, dans la mesure où notre mission principale, c'est celle de protéger les populations civiles. Les éléments de la secte Bundu-Dia Congo, qui depuis le 24 janvier ont initié des protestations à Kipese, et donc suite auxquelles 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées. Les FRDC et les forces de défense et de sécurité sont déployées dans cette zone-là pour prendre en compte cette nouvelle forme de menace sécuritaire et mettre un terme à toutes ces exactions. Donc...
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Capi. Je suis Lungamba Masanfu Willem, marié et père de plusieurs enfants. J'ai fait mon école primaire à Saint-Pierre et je suis allé au collège Boboto, mon cycle d'orientation aussi au collège Boboto. Et puis après, je suis allé à l'Institut National des Arts, j'ai fait les arts dramatiques ici à Kinshasa. Et puis après, je suis allé aussi faire les relations internationales à l'Université de Kinshasa. À la MONUSCO, je suis entré en décembre 2002 et je suis technicien studio. Le matin, lorsque j'arrive au boulot, je commence tout d'abord à lire mes messages, donc mes mails. Je vois l'état du studio, voilà, puisque là, je suis chef d'équipe. Je parcours tous les rapports des techniciens et puis après, s'il y a des solutions à apporter, on les fait. De par mon service, j'aide aussi les journalistes à des problèmes techniques. Mon parcours professionnel avant l'agence, bon, comme je vous ai dit, je suis comédien de formation, j'ai fait partie d'un groupe de théâtre et puis après je me suis lancé dans le studio. J'ai commencé tout d'abord dans le studio d'enregistrement de musique, là où passaient tous les orchestres de Kinshasa. Voilà. Et puis après je suis allé à Radio Elikia, la première radio catholique de Kinshasa. Quand j'étais au studio d'enregistrement de musique, des orchestres, voilà. Même les chorales, c'est de 88 à 95. Et puis après, je suis allé à Radio Elikia de 95 à 2003. Et puis je suis venu ici à la MONUSCO, à Radio Okapi, de 2002, donc de décembre 2002 jusqu'à nos jours. Donc là où j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, quand je suis à Radio Capi, voilà. Mes préférés, donc j'aime tout ce qui est légumes, j'aime. Et du riz, sans oublier le poisson salé, voilà. Et la musique m'importe beaucoup.
Yebi sanga mwana mafifio na lembi koyoka bilobela na bato ngana lembi yeye.
C'est en mémoire de Papa Wemba. Les titres c'est Mère supérieure. Voilà. Bon, dans mes heures perdues, je fais la musique, je chante, voilà. La musique profonde congolaise et puis l'international aussi. L'international aussi. Puisque j'ai grandi dans ça, quand j'étais petit, j'étais dans la chorale et puis je suis allé à l'Institut National des Arts et voilà quoi. C'est dans le sang, c'est dans le sang. Et mes projets d'avenir, je rêve créer une agence culturelle. Là où on peut trouver tout, la communication, l'art dans son ensemble, même le journalisme, puisque j'ai œuvré beaucoup dans les médias, donc je rêve de créer une agence culturelle. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés en ce moment, tous les auditeurs et auditrices de Radio Carpus, je vous remercie.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Alors retenez ce seul rendez-vous dans vos agendas. On rappelle en tout cas que le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Voilà, c'était la fin de ce magazine des Nations Unies. On vous dit merci de nous avoir suivis. Jean-Pierre Elali Coco a coordonné cette édition. Babel Mpongo Massimango et Guy Roger Nyampal a été au reportage. À la technique ou mise en onde, Mimi Kindou, que je salue en passant. Et ben moi, c'est Tina Salama. Alors, si cette émission vous a plu, vous n'avez qu'à aller visiter notre site internet. Vous connaissez l'adresse. Sinon, c'est le www.radiocapi.net où vous pouvez réécouter cette émission. Alors, on se dit... à très bientôt et très bonne suite des programmes sur Radio Tapi. Ciao, ciao.